Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va-t-elle tuer le web tel que nous le connaissons? Vous utilisez sans doute déjà occasionnellement ChatGPT, Perplexity ou encore Claude, ces agents conversationnels à qui vous pouvez demander à peu près n'importe quoi. Si bien que, peu à peu, demander à ChatGPT est en train de ringardiser le fait de passer par un moteur de recherche, de googliser comme on dit. Seulement, voilà, en fournissant directement des réponses au lieu de rediriger vers des sites internet, ces agents sont-ils peu à peu en train de rendre complètement obsolète le web, cette toile d'araignée de milliards de pages. Pour le savoir, je reçois une voix que connaissent bien les fidèles de l'heure du monde, ma collègue Morgane Tual, journaliste au service Pixel. L'IA va-t-elle tuer le web? Un épisode de Marion Botorel, réalisation Florentin Baume. Salut Morgane.
Salut Jean-Guillaume.
Alors, déjà, on va commencer par le béaba. Morgane, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend par agent conversationnel, puisque c'est le cœur de notre sujet?
Un agent conversationnel, c'est un programme informatique qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, à qui vous pouvez parler en langage naturel et qui va vous répondre aussi dans un langage qui ressemble au langage naturel des humains. Ce dont on parle beaucoup en ce moment fonctionne par l'écrit, c'est ChatGPT dont tu as parlé dans ton introduction, Perplexity, Claude pour citer que. On peut dater leur arrivée à celle de ChatGPT lancée un peu par surprise, qui a pris tout le monde de court fin 2022 par l'entreprise OpenAI.
Et depuis ce lancement, l'usage s'est démocratisé au point que les gens l'utilisent pour à peu près n'importe quoi aujourd'hui. On écoute tout de suite un petit florilège des diverses utilités qu'a trouvé l'IA dans nos vies.
L'intelligence artificielle permet donc de générer du texte, des images, vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, et puis maintenant des films en entier.
C'est lors des derniers bacs blancs que les enseignants ont remarqué une hausse significative de copies, sans faute d'orthographe, au langage soutenu, avec même des notions qui n'avaient pas été étudiées en cours, des copies parfaites, quoi. Ce genre d'anecdote revient beaucoup ces derniers temps dans la presse quotidienne régionale.
Est-ce qu'une intelligence artificielle peut écrire un roman? On a testé et on l'a publié.
Il y a de courtes vidéos sur TikTok, des centaines de jeunes femmes présentent leur nouveau psy, qui n'est d'autre qu'une intelligence artificielle.
Il faut que je me confesse, j'ai commencé à utiliser ChatGPT comme si c'était mon psy.
Et donc Morgane, parmi ces usages, il y a le côté tout bêtement moteur de recherche, hein, qui était président des États-Unis en 1883, et ça avant on le demandait à Google, et maintenant on le demande à ChatGPT.
Oui, effectivement, c'est un usage qui se développe de plus en plus, et pour cause, c'est qu'en fait les résultats sont quand même assez efficaces, c'est des résultats qui sont synthétiques, qui répondent exactement aux questions que les gens se posent, même s'il y a des erreurs, effectivement, mais est-ce qu'elles sont si nombreuses que ça? C'est pas si évident de répondre à cette question, mais beaucoup de réponses sont quand même pertinentes. Et en plus, ça permet d'avoir des réponses qui sont personnalisées à des questions beaucoup plus complexes que des questions qu'on peut poser à Google. Par exemple, vous êtes en voyage avec des amis, vous dites « bah, je suis en voyage à Rome avec 5 amis, il pleut, on aime bien les musées, mais on n'a pas envie de quelque chose qui dure trop longtemps, qu'est-ce que tu peux nous proposer ?» On ne peut pas demander ça à Google. Google, il va nous servir une liste de liens dans laquelle il va falloir chercher des informations, ça va prendre du temps, faire sa petite sauce, etc. Ça prend beaucoup de temps. Là, on a un gain de temps énorme puisqu'en fait, il va nous proposer tout de suite une série d'activités qui correspondent de façon plutôt pertinente pour l'avoir testé ainsi à nos attentes. Et donc, ça fait que les gens, ils y vont, quoi. L'intérêt aussi, c'est que le langage naturel, ça rend ces moteurs de recherche, en tout cas ces agents conversationnels, accessibles à tout le monde. Faut pas oublier que se servir de Google, on a l'habitude de le faire. Mais en fait, ça nécessite quand même une forme de savoir-faire, d'utiliser les bons mots-clés, d'aller cliquer sur les bons liens, de trouver l'information qu'on cherche à l'intérieur de la page qu'on consulte, éventuellement de synthétiser les informations de plusieurs pages. Là, quelque part, il n'y a pas besoin de cette compétence, d'une certaine manière, d'utiliser un moteur de recherche en parlant en langage naturel.
Ok Morgane, alors la question qui se pose maintenant, c'est quel impact peut avoir cette utilisation massive de l'IA? Et donc toi, tu t'es demandé dans un article, ni plus ni moins, si l'IA ne va pas tuer Internet, tout simplement.
Alors, pas exactement Internet, mais plutôt le web qui est une partie d'Internet. Pour différencier le web et Internet, Internet, ça existait avant le web. Internet, c'est les tuyaux par lesquels transitent des informations entre plein d'ordinateurs reliés les uns aux autres. Le web, ce sont des documents accessibles sur Internet et qui sont reliés entre eux par des liens hypertextes. Et tous ces milliards de documents disponibles via Internet, reliés entre eux par ces liens hypertextes, ça crée une immense toile géante, le fameux World Wide Web.
Et donc, Morgane, très vite, après la naissance du web, il y a eu petit à petit tellement de documents différents et d'informations disponibles qu'il a fallu créer des outils pour bien trouver le site qui nous intéresse.
Ben oui, exactement. Alors, au début, il y avait des annuaires qui essayaient de référencer tous ces sites web. Bon, évidemment, il y a un moment, c'était plus possible. Il y avait trop de pages web. Et donc, du coup, on a vu émerger des moteurs de recherche comme, par exemple, AltaVista, Lycos et finalement Google en 1998 qui a représenté une avancée formidable qui était largement meilleure que les autres et qui nous permettait de trouver le site web le plus pertinent pour répondre à la question qu'on se posait.
Sauf que Morgane, ce moteur de recherche, il avait comme fonction de nous amener sur le site en question. Mais là, l'IA donne directement la réponse et donc se rendre sur le site, c'est finalement complètement dispensable.
Ben oui, d'une certaine manière, vous posez la question à l'IA, elle vous répond, vous n'avez pas besoin de cliquer sur un lien. Les IA vont vous donner souvent des liens qu'elles présentent comme une source, mais vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Et j'ai pu en discuter, c'était rigolo, avec Jean-François Groff, qui est un Français, qui faisait partie de l'équipe qui a posé les premières pierres du web au tournant des années 90 avec le créateur du web, Tim Berners-Lee. Et il me disait qu'il ressentait aujourd'hui, avec ChatGPT, la même excitation que lorsque Google est arrivé à l'époque et a complètement ringardisé AltaVista et tous les autres moteurs de recherche.
Mais est-ce que ça veut donc dire que Google est voué à disparaître comme AltaVista et les autres moteurs de recherche à l'époque ?
Alors non, d'autant plus que Google est un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils sont à fond sur le secteur depuis très très longtemps. Ils ont embauché parmi les meilleurs spécialistes du domaine. Et ils sont donc en train de faire évoluer leur moteur de recherche pour qu'il devienne lui-même un moteur de recherche par intelligence artificielle. Alors ça fait longtemps qu'ils utilisent l'IA, mais nous on ne le voit pas forcément. Là maintenant, ils vont vraiment utiliser l'IA générative qui ressemble à celle de ChatGPT pour nous donner des réponses. Donc ils ont déjà lancé des choses aux États-Unis notamment qui ne sont pas encore chez nous en France, notamment AI Overviews où vous poserez une question au moteur de recherche comme vous le faites déjà. Enfin, aujourd'hui vous utilisez surtout des mots-clés, pas forcément poser des questions comme ça, mais le moteur de recherche vous répondra directement, vous aurez une réponse comme le fait déjà ChatGPT et en dessous vous aurez la liste traditionnelle de liens. Et là plus récemment, Google vient d'annoncer il y a quelques semaines le lancement d'un AI Mode, donc un mode de Google 100% géré par l'IA, où là, pour le coup, vous poserez votre question et là, vous n'aurez qu'une réponse générée par IA et qui sera agrémentée de graphiques faits sur mesure, voilà, d'autres éléments multimédia qui pourront répondre à votre demande.
Sauf que Morgan, on connaît bien l'importance pour un site internet d'être en tête, d'être en haut de la page de résultats Google. Et si jamais il y a un paragraphe généré en intelligence artificielle, les sites internet et les liens vers ces sites internet, ils vont être relégués plus bas. Donc les gens vont moins cliquer dessus et ça pose donc la question du modèle économique de tous ces sites qui sont pour beaucoup dépendants de visites et de la publicité.
Ben oui, c'est exactement le problème que ça pose, en fait, l'utilisation de plus en plus importante de ces IA comme moteur de recherche, parce que le gagne-pain de beaucoup de sites internet, c'est que les gens cliquent sur ces sites, consomment de la publicité et ça rapporte de l'argent à ces éditeurs. Et là, effectivement, cet usage, il pourrait être menacé. Et une étude de l'entreprise d'analyse SimilarWeb dit que depuis le lancement d'AI Overviews aux États-Unis en mai 2024, le trafic vers les sites d'information américains qui provenaient des moteurs de recherche traditionnels aurait chuté de 26%.
26%, c'est quand même énorme comme chiffre. J'imagine que les éditeurs de presse sont vent debout contre les entreprises d'IA.
Évidemment, ça pose une question existentielle pour les éditeurs de presse, et pas seulement de presse, d'autant plus que ces IA, elles se nourrissent de tous les contenus des pages web, dont ceux des éditeurs de presse, pour régurgiter des informations. Donc, quelque part, ils se font piller leur contenu sans aucune contrepartie, et potentiellement, en plus de ça, ils vont voir le nombre de visites sur leur site s'effondrer. Donc il y a plusieurs réactions. On a par exemple le New York Times qui a lancé une action en justice contre OpenAI justement pour cette raison-là, mais qui parallèlement a signé aussi un partenariat avec Amazon contre rémunération, évidemment, pour pouvoir utiliser ses contenus. Et ce genre de partenariat a tendance à se développer. Le Monde lui-même a signé un partenariat avec OpenAI, mais aussi avec Perplexity. Donc c'est une réponse qui se développe aussi, mais ça ne va pas pouvoir concerner tous les sites web. Là, on parle de grands éditeurs de presse.
Qui ont les moyens de faire un accord avec OpenAI et ChatGPT.
Exactement. Or, sur Internet, on peut consulter des tas de pages web gérées par des beaucoup plus petits éditeurs, voire des particuliers qui n'auront pas forcément ce pouvoir-là.
Et alors, si je pousse le curseur un peu plus loin dans le temps, si on suit cette dynamique-là, à quoi ça ressemblerait un web dans lequel l'usage d'aller consulter les pages web est devenu obsolète ?
Si ce web existe toujours, on peut se dire que le web pourrait devenir une immense base de données à destination des IA et non plus un web conçu pour être lu par des humains.
Alors Morgane, en quoi est-ce que c'est si inquiétant finalement que le web tel qu'on l'a connu disparaisse? Après tout, on pourrait se dire que le Minitel est mort à l'arrivée d'Internet, que les technologies et les supports pour l'information, ils changent, que c'est la vie après tout, les DVD c'est obsolète aussi aujourd'hui, les CD-ROM aussi, est-ce que c'est si grave que ça finalement?
Oui, effectivement, il ne faut pas se poser la question en termes de nostalgie, il ne s'agit pas de dire « ah là là, le web c'était mieux avant », il ne faut pas être dans une vision passéiste, faut pas non plus idéaliser le web des débuts. Mais quand j'en ai parlé à Francesca Musiani, qui est sociologue et directrice du Centre Internet et Société du CNRS, elle me disait qu'il y avait quand même de quoi être inquiet pour des raisons démocratiques.
Je crois qu'il y a aussi une question de perte de diversité et perte de profondeur de l'information. C'est-à-dire que voilà, on a une réponse générée par l'IA qui est extrêmement fluide, qui est construite pour qu'on y croit et qu'on l'assimile sans trop, sans trop poser d'autres questions. C'est souvent condensé à l'extrême, donc c'est quand même moins nuancé, souvent.
Et Morgane, un autre aspect démocratique qui est important, c'est que finalement, un moteur de recherche, il donne accès à plein de sources différentes quand une intelligence artificielle va faire un paragraphe de 15 lignes. Et ça, cette distinction-là, elle est importante.
Oui, et ce que me disait également cette chercheuse, c'est que un modèle d'IA, il va ressortir des réponses basées sur la statistique et il va vous trouver les réponses les plus consensuelles selon les données qu'il a trouvées sur le web. Donc quelque part, pour elle, ça crée des réponses qui sont standardisées, qui sont consensuelles et ça risque d'invisibiliser certains propos, ce qui est un problème aussi démocratique. Par ailleurs, elle insistait aussi sur le fait que elle, en tant qu'enseignante qui est face à des étudiants régulièrement, elle disait c'est déjà suffisamment difficile d'expliquer à des étudiants qu'il faut toujours, quand ils sont sur Internet ou ailleurs, s'intéresser à la source, qui parle, qui publie ce contenu, quels sont ses intérêts. Ça, c'est quand même la base de l'éducation aux médias et à l'information. Et elle disait, c'était déjà difficile avant de leur expliquer ça, mais en fait, maintenant, quand on va sur ChatGPT, on n'est pas du tout à la source de l'information qu'on consulte. Alors, il se trouve que ces agents conversationnels nous donnent de plus en plus des liens vers des sources, mais est-ce qu'on va aller les consulter? Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire.
Et donc, si on ne va plus aller les consulter, ces sources, j'imagine aussi qu'il y aura de moins en moins d'intérêt pour les gens d'en produire des sources sur le web. Donc, le web va s'appauvrir, si bien qu'à la fin, qu'est-ce que les IA vont bien pouvoir aspirer si le contenu fait par des êtres humains se fait de plus en plus rare?
Oui, c'est aussi une question qui se pose. C'est est-ce qu'en fait, on va se retrouver avec un web sur lequel on a surtout ou de plus en plus des contenus générés par IA? Et est-ce que ça veut donc dire que les IA vont elles-mêmes se nourrir de contenu généré par IA? Donc, qu'est-ce que ça donne à la fin? Je ne sais pas, probablement des réponses plus standardisées, peut-être plus d'erreurs aussi. On verra.
« Ok Morgane, donc on voit bien tous les risques, mais donnons peut-être un peu la parole à la défense, si tu le veux bien. Parce que tu le dis dans ton article, le PDG de Perplexity, Aravind Sirvas, il disait dans le magazine Wired que les erreurs ne représentent qu'une petite partie des résultats et nos réponses sont bien plus pertinentes que 10 liens bleus, hein, en référence à Google, 10 liens bleus pollués par des décennies de contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il envoie une petite pique à Google quand même dans un contexte où en fait Google est de plus en plus critiqué hein, depuis quelques années sur la qualité de ses résultats. Et puis il faut bien dire aussi que de manière générale, ça devient pénible de naviguer sur le web. Il y a des pop-up partout. Alors bon, notamment une pop-up indispensable pour des bonnes raisons qui est la pop-up, la fameuse pop-up des cookies là qu'on voit émerger partout, qui est en fait
accepter ou refuser le traitement de ses données personnelles, c'est ça ?
Exactement. Donc, c'est quand même dans un but de protection de nos données personnelles. C'est issu du RGPD européen. C'est pour nous protéger.
Mais c'est vrai que c'est désagréable.
Ça contribue à rendre le web un peu plus difficile à naviguer. Mais s'il n'y avait que ça, il y a d'autres pop-up. On nous demande est-ce que vous voulez autoriser les notifications. Les publicités sont extrêmement invasives. On parlait de nostalgie tout à l'heure du web d'avant. Il y a eu une époque où le web était complètement saturé de pop-up dans tous les sens. C'était une horreur. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à ça alors qu'on en était parti. Donc, quelque part, quand on se retrouve à se poser une question et qu'en fait, sur une interface très très simple,
toute blanche, tout voilà, épuré, on pose une question, on a la réponse.
Exactement, et bien quelque part, c'est reposant.
Mais donc ça veut dire que, est-ce que le web, il n'était pas en fait déjà mort et en fait on ne le voyait pas ?
Ben, c'est une question qui n'est pas nouvelle, celle de est-ce que le web est mort ou pas ? Moi je pense qu'il n'est pas mort, il existe, on vient de le critiquer. Mais ça veut dire qu'il existe toujours. Mais ça fait quand même un certain temps qu'on annonce sa mort. Jean-François Grof, donc, qui a contribué à la création du web aux côtés de Tim Berners-Lee, lui, il m'a dit, il n'est pas nostalgique, lui il m'a dit, le web, c'est mort depuis longtemps, maintenant les gens, ils vont que sur les applications mobiles. On passe des heures à scroller sur TikTok des vidéos, ce qui n'a plus rien à voir en fait avec le web initial. Et ce qu'il me dit, c'est que le mot web a quasiment disparu du vocabulaire des jeunes générations. Et c'est vrai qu'au tout début des années 2010, le magazine de référence Tech Wired annonçait déjà en fait la mort du web avec l'émergence des smartphones et surtout la généralisation des applications. Mais en parallèle de ça, on a Sundar Pichai, qui est le PDG de Google, qui, lui, tient un discours tout autre. Il dit même que le nombre de pages web, en fait, ne cesse d'augmenter et a même augmenté de 45% ces dernières années, ce qui est quand même considérable. Et quand on lui demande si ces contenus-là sont des contenus générés par IA, il n'est pas vraiment capable d'y répondre. Mais il a un discours intéressant qui dit que les IA génératives, elles permettent à tout à chacun de créer du contenu très facilement, dont des pages web. Créer une page web aujourd'hui grâce à une intelligence artificielle, c'est beaucoup plus simple. Et il dit, du coup, ça va amener les gens à être encore plus facilement créatifs, à partager encore plus facilement le résultat de leur créativité, notamment sur le web. Donc on va arriver vers un web qui sera plus vivant et plus riche que jamais.
Merci Morgane.
Merci Jean-Guillaume.
Pour continuer à suivre toutes les évolutions liées à l'intelligence artificielle, il vous suffit de rester à l'affût de chaque article publié par Morgane Tual et ses collègues du service Pixel. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de L'Heure du Monde. Bonne journée.